Bienvenue au pays des mythes et des légendes. Le feuilleton d'Ulysse, épisode 73. Furieux d'avoir été volé, Hélios a obtenu vengeance. Le foudre de Zeus s'est abattu sur le bateau d'Ulysse. Et lui seul a survécu au naufrage. Il se retrouve maintenant sur un radeau, perdu en plein océan. Cela fait 9 jours et 9 nuits qu'Ulysse est accroché à son radeau. À cheval, sur le morceau de mât, il utilise ses mains comme des pagaies. Le jour, le soleil lui brûle les yeux. La nuit, le froid lui glace les os. Et toute la journée, le sel lui enfonce 1000 aiguilles dans la peau. Ses lèvres saignent. La soif est plus cruelle encore que la faim. Il sombre peu à peu dans une semi-inconscience. Il n'entend plus que le cri des mouettes et le clapotis des vagues. C'est alors que la mer dépose le naufragé épuisé sur une plage de sable doux. Ulysse se lève, titube, hagard. Rêve-t-il ? En face de lui s'approche une splendide femme aux cheveux longs qui lui tombent sur les chevilles. Cette nymphe aux yeux si doux, aux mains caressantes, est-elle un mirage ? Sans plus réfléchir, Ulysse se laisse guider. La femme lui dit son nom, Calypso, celle qui cache. Puis elle met un doigt sur ses lèvres et le conduit en silence dans sa demeure, une grande caverne devant laquelle pousse une vigne chargée de grappes mordorées. Ulysse n'a jamais vu d'endroit aussi reposant. De grands feux sont allumés, dans lesquels les servantes ont jeté des bois aux parfums odorants, eucalyptus et thuya. Pour atteindre la grotte, il faut franchir une belle prairie où serpentent 4 ruisseaux aux eaux cristallines. Des bouquets d'iris, de lavande, de violette parsèment le vert tendre de l'herbe. De hauts cyprès et des peupliers noirs bruissent dans le vent frais et entourent la caverne de Calypso. Ulysse écoute le chant des oiseaux, regarde le vol majestueux des faucons. Il boit le vin fort que Calypso lui sert et tout l'enivre. Vivant ! Il est vivant ! Calypso lave son corps fatigué. Elle lui offre du pain, des fruits et son lit. Le naufragé sauvé des eaux ne réfléchit pas. Il ne réfléchit plus. Il se croit au paradis. Les jours, les mois passent. Sur cette île enchantée, Ulysse reprend des forces. La belle Calypso l'entoure de tendresse. Elle le couvre de compliments, le flatte et l'honore sans cesse. Elle tisse, et tout en tissant, elle lui chante des romances. Tout pour faire le bonheur d'un homme. Pourtant, Ulysse n'est pas heureux. D'abord tombé sous le charme du lieu et de son hôtesse, il a senti peu à peu que là n'était pas son bonheur. Non seulement il songe sans cesse à ses compagnons morts pendant le voyage, mais la nostalgie de son chez-lui grandit chaque jour un peu plus. Le manque du pays se glisse dans 1000 petits détails. Le pain est bon, mais pas autant que celui que cuisaient les femmes d'Ithaque. Le vin est bon, mais pas autant que celui que fabriquaient les hommes d'Ithaque. La nature est belle, mais rien ne vaut les collines de son île lorsqu'elle se jette dans la mer. Et puis chaque jour un peu plus, l'appel de Pénélope se fait sentir, comme une douleur qui enfle et finit par tout envahir. Même les nuits d'Ulysse sont peuplées du visage de sa femme. Les cauchemars qu'il faisait en dormant auprès de Circé, la magicienne, reviennent auprès de Calypso. Pénélope le regarde chaque nuit. Il tente de caresser son visage, mais sa main traverse le vide. Et c'est le visage baigné de larmes qu'Ulysse se réveille. Cependant, la nymphe Calypso est tombée amoureuse du beau barbu aux longs cheveux. Elle ne veut plus le laisser repartir. Il est prisonnier de ce paradis, de ce non-lieu. Car personne ne sait s'il est mort ou vivant. Personne ne sait où il se trouve désormais. « Mais mon nom, ma renommée, qui s'en soucie encore ?» se demande-t-il douloureusement. Et ainsi les années passent. Un matin, alors qu'elle trouve une nouvelle fois Ulysse assis sur la plage, le visage tendu tristement vers l'horizon, Calypso n'y tient plus. « Mon doux héros, as-tu remarqué la blancheur de mon visage, la douceur de ma peau ?» Ulysse sourit devant ce qu'il prend pour une coquetterie. Mais oui, belle nymphe, tu as une peau de lait. Pas une ride n'en trouble la surface. Très sérieusement, Calypso continue. Penses-tu que ta femme, elle, n'a pas pris une ride depuis presque 20 ans que tu es parti? Surpris, Ulysse hésite avant de répondre. L'éclair de triomphe qui passe alors dans le regard de Calypso lui déplaît fortement, mais il se tait. Il la laisse poursuivre. D'un ton inhabituellement passionné, la belle nymphe reprend. « Moi, je ne vieillirai jamais, jamais. Ma beauté sera toujours intacte. Je suis immortelle. Les années n'ont pas de prise sur moi. Et si tu restes avec moi, Ulysse, non seulement tu vivras avec une femme éternellement belle, mais je t'offre de partager cette éternelle jeunesse, cette immortalité. Tu ne vieilliras pas, tu ne mourras pas. En revanche, si je te laisse repartir, tu retrouveras une vieille femme et tu vieilliras, toi aussi, avant de mourir. Alors, réfléchis bien. » Ulysse va-t-il renoncer à rentrer chez lui, à retrouver sa femme, pour accéder à l'éternelle jeunesse et à l'immortalité ? Le soir même, Calypso revient trouver Ulysse sur la plage. Le soleil couchant teinte sa chevelure de 1000 feux. Elle est encore plus belle, plus désirable que d'habitude. Un vent léger soulève ses voiles, laissant deviner un jeune corps mince, ferme et souple. Les oiseaux marins tournoient dans le ciel. L'air pur et cristallin monte à la tête. « Alors ?» demande Calypso en exhibant ses belles dents dans un sourire à faire fondre les pierres. « Qu'as-tu décidé ?» Ulysse détourne son regard du large qu'il scrute avec mélancolie et la fixe avec gentillesse. Puis il répond. « Tu es assurément la plus belle, ô Calypso. Je n'y ai pas songé, mais oui, bien sûr, le visage de Pénélope a dû vieillir, son corps aussi. C'est une femme, pas une déesse comme toi. Pour autant, ne le prends pas mal, je préfère la retrouver, elle. » Chacune de ces rides me racontera une histoire, celle de la vie. Ces rides me parleront de son immense douleur et de la mienne à vivre séparés l'un de l'autre. Certaines auront été creusées par ses larmes. Sans doute me croit-elle mort. Je veux que d'autres rides se creusent sur ses joues avec ses larmes de joie, celles qu'elle versera à mon retour. Oui, je veux que mes doigts caressent les plis de sa vie et qu'elle caresse les miens. Car nos cœurs, eux, sont sans rides. Personne ne me connaît mieux qu'elle. Pénélope comprend tout de moi, sait tout de moi, aime tout de moi. Elle est la mémoire de moi-même, ma seconde peau. Toi, tu chantes, tu tisses divinement, déesse, mais elle chante et tisse mon histoire et ma renommée. C'est infiniment plus précieux pour moi. Et puis, tu sais, l'immortalité que tu m'offres en restant ici à jamais avec toi est une autre manière de mourir. Si personne ne porte la mémoire de ce que je suis mort. Pénélope, elle, le fait, jour et nuit. Elle est mon autre moi-même, ma moitié d'orange. En entendant ces mots, Calypso cesse de sourire. Elle est tellement sûre de ses charmes qu'elle n'a pas prévu le refus du roi d'Ithaque. Oh, elle sent bien depuis longtemps que ses caresses lassent Ulysse et qu'il passe le plus clair de son temps à soupirer en regardant la mer. Mais de là à préférer mourir loin d'elle, plutôt que de rester à jamais vivant à ses côtés. Elle se lève. Elle quitte la plage en silence. Ulysse la regarde s'éloigner sans un geste et il murmure. Une belle geôlière, mais une geôlière quand même. Cette fille auprès de qui je dors m'enroule dans ses cheveux d'or, comme une araignée dans sa toile. Puis ses yeux bleus se fondent à nouveau dans la mer, et il dit comme une prière, « Moi j'en appelle au vent du large qui me fera quitter cette île. » Quelques minutes plus tard, Calypso se trouve nez à nez avec un jeune homme qui porte un curieux chapeau plat, d'où sortent deux ailes, et des sandales également pourvues d'ailes. Elle reconnaît aussitôt le dieu Hermès. et quitte son visage courroucé pour l'accueillir aimablement. « Bonjour, messager des dieux, entre donc dans ma demeure, et tu me diras ce qui me vaut une visite aussi prestigieuse. » Hermès rit sous cape devant cette hôtesse si empressée. « Quand elle saura pourquoi je suis là, » chuchote-t-il à la chouette qui volait autour de lui. Mais il fait honneur à l'ambroisie et au nectar que la nymphe lui sert. « Comme ce lieu est beau et agréable, » pense-t-il attendri. « Faut-il que notre Ulysse aime sa chère femme et son cher pays pour ne pas souhaiter y rester pour toujours ? Enfin, c'est son choix. » Lorsqu'il s'est bien restauré, Hermès prend enfin la parole. « Divine Calypso, j'ai entrepris ce long voyage jusqu'à toi pour te porter un message de Zeus, notre père à tous. Hélas, je dois te dire que le dieu des dieux a été pris de pitié pour le vaillant Ulysse et sa fidélité envers sa mère patrie et sa femme chérie. Il ordonne que tu le laisses enfin repartir, après toutes ces années. Crois-moi, belle Calypso, j'obéis avec regret, mais tu sais bien que personne ne peut désobéir à Zeus, pas même toi. » Aussitôt, Calypso se précipite à l'intérieur de la caverne. La chouette, perchée sur un peuplier au-dessus d'Hermès, ne peut s'empêcher de pousser un petit sifflement d'admiration et de ricaner. Oh, quel beau parleur ! Quel joli menteur ! Ah bon, tu obéis avec regret ? Agacé, Hermès lève la tête et lui fait signe de se taire. Il grogne entre ses dents. Ça va, Athéna, hein, ça va. Laisse-moi accomplir ma mission à ma manière. Je me dispense de tes commentaires. Et d'ailleurs, que fais-tu là ? Tu ne devrais pas plutôt aller voir Télémaque et l'envoyer à la recherche de son père ? Calypso est revenue sur le seuil de la grotte. Elle a les yeux rougis par les larmes. « Les dieux sont injustes avec moi » crie-t-elle. « De quel droit m'interdire de garder cet époux que je me suis choisi ?» La chouette vient de s'envoler sans même que Calypso la remarque, tout occupée à sa colère. « Ce beau marin, à la barbe douce et aux yeux de ciel et de mer, je le veux pour moi !» Une voix derrière elle lui répond. « Peut-être, mais moi, je ne veux pas. » Calypso n'avait pas entendu Ulysse arriver. Il a salué Hermès d'un petit geste de connivence, soulagé de le voir ici. Le dieu n'a-t-il pas été une aide précieuse pour échapper à la magicienne Circé ? Le regard de Calypso va d'Hermès à Ulysse sans se poser, comme à un papillon affolé. Finalement, elle baisse les yeux, vaincue. « Très bien, je te rends ta liberté, Ulysse. Va rejoindre cette Pénélope et cette terre que tu aimes tant. Va mourir !» Les paroles de Calypso auraient dû rendre Ulysse fou de joie, mais ces derniers mots l'empêchent de se réjouir. Va-t-il arriver vivant sur son île ? Le soleil frappe fort le dos du jeune paysan qui laboure son champ. L'homme n'est pas très grand, mais il se dégage de son buste large et de ses bras noueux une puissance paisible. Une vieille femme, vêtue de noir, marche à petits pas le long du chemin. Elle s'approche du paysan qui relève soudain la tête. La vieille femme sourit en voyant ses yeux d'un bleu ciel de mer, cette courte barbe, ses lèvres charnues. Pas de doute, c'est bien son fils à lui. Le jeune homme l'interpelle. « Bonjour, vieille mère, que les dieux te protègent. Qui es-tu donc ? Je ne te connais pas. » Elle lui répond. « Je m'appelle Umariaka. J'ai bien connu ton père autrefois, comme tu lui ressembles. Tu es Télémaque, n'est-ce pas ?» Un soupir lui répond. « Oui, c'est ainsi que mes parents m'ont nommé. Mais mon père, il doit être mort depuis longtemps. » Puis, sans attendre, il crie « Hu !» et ses bœufs reprennent le sillon qu'il creusait. Umariaka plisse les yeux. « Hé là, Télémaque, tu ne m'offres pas une gorgée d'eau ?» Le fils d'Ulysse stoppe une deuxième fois son attelage et invite sans un mot Umariaka à partager l'eau de la gourde qui pend à sa ceinture. « Qui t'a dit que ton père était mort ? » reprend-elle. « Moi, la dernière fois que je l'ai vu, il était bien vivant. » C'était à Troie, et la guerre était finie. Télémaque la coupe d'un ton irrité. Eh bien, s'il n'est pas mort, alors il nous a oubliés depuis longtemps, et il coule des jours heureux dans les bras d'une autre que ma mère. Et pendant ce temps, son palais est envahi par des ivrognes qui saccagent tout, qui vident ses réserves. Mariaca s'est assise sur une pierre, à l'ombre d'un figuier en bordure du champ. Ses deux mains ridées prennent appui sur un vieux bâton. Elle montre le paysage autour d'eux. « Sa plus grande richesse est ici, dit-elle, et sa personne ne le lui volera jamais. » Son geste englobe le jeune homme. « Et tu en fais partie, Télémaque. » Celui-ci rajuste une mèche de cheveux qui s'échappe de son bandeau. Il hoche la tête. « En attendant, ici, c'est la mort. Il ne se passe rien. Ma mère attend qu'il revienne. Les prétendants attendent qu'elle cesse d'attendre. Et moi, je n'attends plus rien de personne. » Sentant la nervosité du jeune homme poindre dans sa voix, Umariaka se dit qu'il a hérité du caractère impulsif de son père. Espérons qu'il lui a aussi transmis sa ruse et son intelligence, pense-t-elle. Les bœufs soufflent doucement sous la chaleur. Le front ruisselant, Télémaque dit poliment « Je suis désolée, la vieille, je dois poursuivre mon travail. » « Fais, fais !» lui répond Umariaka. « Mais réfléchis à mes paroles. Tu dois partir en voyage chez Ménélas. Il est rentré vivant chez lui, à Sparte. Il saura peut-être te donner des nouvelles de ton père. » Télémaque fait claquer son fouet. « Hue, les bêtes, hue ! Merci pour le conseil. Je le suivrai peut-être. » La vieille s'éloigne, comme elle est arrivée. Et toute la journée, Télémaque laboure son champ en repensant aux paroles d'Umariaka. Le soir venu, lorsqu'il rentre dans la maison de Mentor où il habite, son visage préoccupé ne trompe pas un instant son précepteur. « Que t'arrive-t-il aujourd'hui, mon fils ? » demande celui-ci. Depuis cette nuit où il a arraché Télémaque du palais, Mentor joue le père de remplacement. Télémaque essaye d'esquiver un sourire en vain. « Je crois que j'ai besoin de savoir comment mon père est mort, pour pouvoir enfin exister moi-même. « Je te comprends, » répond Mentor, « mais rien ne te permet d'affirmer qu'Ulysse est mort. Si tu veux partir à sa recherche, je t'aiderai. » Le lendemain, Télémaque se rend au palais pour faire ses adieux à sa mère. Il y va le moins possible. Il préfère que Pénélope vienne le retrouver chez Mentor. Il évite ainsi de croiser ses anciens amis qui occupent sans vergogne sa maison. Ce qu'il découvre alors le bouleverse. Les prétendants sont de plus en plus nombreux, presque une centaine. Depuis toutes ces années où ils vivent comme chez eux, ils ont pris le pouvoir au palais. Plus personne ne semble prêter attention à Pénélope. Attendre sa décision est un prétexte pour continuer à boire, à manger, à piller les réserves d'Ulysse. Télémaque traverse des pièces sales, délabrées, où des restes de repas jonchent le sol. Il arrive dans les appartements de sa mère. Pénélope est pâle et triste. Elle se tient devant son métier à tisser. Ses gestes lents font aller et venir la navette. Télémaque se penche sur la toile et reconnaît les dessins. C'est le drap qui doit envelopper le corps de son grand-père, Laërte, le jour où il mourra. « Tu n'as toujours pas fini ?» s'étonne Télémaque. Pénélope a un petit sourire. Elle regarde son fils et elle dit simplement « Il faut croire que je suis très lente. » Télémaque n'arrive pas à détacher les yeux de cette toile. Il sait bien qu'un jour ou l'autre, Pénélope la finira. Ce jour-là, elle sera obligée de choisir un remplaçant à son père. Elle sera obligée de cesser de l'attendre. Leur avenir à tous dépend de ces quelques bouts de fil.